7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, la francophonie au service de l'entrepreneuriat des femmes aujourd'hui. Vous le savez, la pandémie de Covid-19, depuis plus d'un an, a entraîné dans son sillage une crise économique aux lourdes conséquences pour les pays, pour les populations vulnérables, et la situation des femmes en particulier risque de s'aggraver. On en parlera d'ailleurs dans d'autres émissions ultérieures. C'est dans ce contexte que l'Organisation internationale de la francophonie a mis en place un fonds, la francophonie avec elle, elle au pluriel bien sûr. Bonjour Florian Coutal.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes responsable du programme Société Civile à l'OIF et nous allons voir avec vous qui sont les femmes qui peuvent bénéficier de ces financements et en quoi cela change vraiment leur vie. Nous allons donc aussi donner la parole à des femmes. On entendra Lionel Akonkwa Simba, qui est directrice d'un centre de formation digitale à Bukavu en RDC, en quoi ça aide les femmes à monter leur petit commerce de manière un peu l'informatique. Awa Sambou est bénéficiaire du programme Francophonie avec elle. Elle est désormais propriétaire d'un commerce de poissons et de légumes dans le quartier de Madrid, à Ouadibou, la capitale économique de la Mauritanie. Et on entendra également Louise Dabassar, qui est productrice de sel, présidente de la Fédération communale des producteurs de sel de Palmarin. Je devrais dire des productrices de sel, parce que ce sont exclusivement des femmes qui récoltent le sel à Palmarin, au Sénégal. C'est un travail difficile, d'autant que les prix du sel sont bas en ce moment. Et en fin d'émission, un tout autre sujet, mais toujours très féminin, portrait et témoignage d'une icône de la révolution au Soudan en 2019. Vous vous souvenez sans doute de cette étudiante tout en blanc sur le toit d'une voiture, au-dessus d'une marée de manifestants. Ala Salah s'est confiée à Charlie Dupio. Elle continue la lutte pour le droit des femmes. Voilà, vous avez la parole pour vos réactions, pour vos questions sur le financement des femmes entrepreneuses au 33 7 64 45 51 41. Écoutez tout de suite le message de ce voisin en Guinée-Conakry, Abdoulaye.
Comment accéder au fonds que vous parlez comme ça de la francophonie? Ces fonds-là, les jeunes femmes pauvres ne pourront pas accéder à ces fonds-là. Parce que pour accéder à ces fonds, il faut avoir un petit ordinateur portable pour faire les saisies de tes documents. Avoir une imprimante. Quand tu auras fini de faire tes documents avec ton projet, tu déposes au siège de la francophonie à Conakry. Pour accéder à ces lieux en Guinée, c'est extrêmement difficile. Ceux qui réussissent ça sont des gens qui ont des mentors, qui ont des parents un peu riches, mais pas pour des gens qui n'ont pas de revenus, qui vivent du jour au jour. Il y a une jeune femme du nom de Mathilde Silla qui a un projet, qui a fini l'université, qui est une jeune entrepreneur à Conakry. Elle veut une place qui coûte 500 euros dans le marché de Anko 5 à Conakry, dans le banlieue de Conakry. Cette jeune femme fait la tresse. Après la tresse, le revenu qu'elle gagne dans ça, elle se nourrit, elle entretient ses parents. Et quand elle est malade, c'est dans ça qu'elle tire le prix des médicaments. Je vous jure, madame, ce n'est pas facile chez nous, en Afrique.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, merci Abdoulaye pour ce message tellement important pour démarrer l'émission. Si une jeune femme qui a terminé l'université fait des tresses au marché et déjà a du mal à payer son emplacement au marché, etc., on imagine pour des femmes qui ne sont pratiquement pas allées à l'école. Alors la question d'Abdoulaye, elle est très bonne, Florian Coutal. Finalement, les femmes les plus pauvres, comment elles peuvent avoir accès à des financements internationaux comme un financement de l'OIF?
Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette question si importante. Effectivement, l'accessibilité des financements est une question prioritaire pour nous. C'est un dispositif, la francophonie avec elle, qui vise vraiment à soutenir les femmes et les filles les plus vulnérables au sein des communautés. Pour avoir accès à ces financements, nous avons imaginé différentes approches pour pouvoir aller toucher davantage les populations les plus précarisées, les plus en difficulté au sein des communautés. Nous le faisons faisons en favorisant l'information, parce que l'information, c'est aussi la capacité de pouvoir prendre connaissance de ce dispositif, de pouvoir y répondre. Donc nous ne diffusons pas seulement via Internet, nous diffusons via les radios communautaires, nous diffusons via les télévisions nationales, voilà. Mais également par WhatsApp, qui est le principal réseau social utilisé en Afrique. Donc sur la diffusion, nous faisons des vrais efforts. Sur la capacité des organisations à répondre, nous mettons aussi en place un dispositif d'accompagnement des femmes qui souhaitent répondre à ce dispositif. Il suffit qu'elles nous contactent par WhatsApp, par email. Alors effectivement, ça nécessite un ordinateur ou l'accès à un cybercafé. Elles peuvent nous contacter et on les accompagne à rédiger leur projet à partir de leurs idées pour qu'elles puissent soumettre leur initiative et ensuite bénéficier de ces subventions pour pouvoir s'installer dans un marché, pour pouvoir se former au numérique, pour pouvoir développer leurs compétences en comptabilité, bref, pour pouvoir s'autonomiser socio-économiquement.
Mais souvent, vous passez par des ONG, par des associations locales, hein. C'est quand même le trait d'union indispensable entre vous, grandes institutions internationales, et puis les femmes des quartiers.
Exactement. Et c'est là la grande innovation de ce dispositif par rapport au panorama global de la coopération internationale, de ce que font les autres bailleurs et partenaires financiers. Nous avons vraiment à cœur de soutenir des associations locales qui sont installées au sein des communautés, au sein des zones de vulnérabilité. Et donc, c'est pour ça que nous mettons en place tous ces moyens et ces leviers pour pouvoir informer, accompagner ces organisations locales qui, elles-mêmes, vont identifier au sein de leur communauté, des femmes, des filles vulnérables, et leur donner un prêt, leur donner une subvention, leur donner une formation pour qu'elles puissent justement bénéficier au mieux de ce dispositif.
Alors, Francophonie avec elle, vous avez encore peu de recul, hein, et pour cause, puisque vous avez lancé tout ça dans l'urgence de la pandémie.
Effectivement, le fonds La Francophonie avec elle a été imaginé au printemps 2020, dans les premières semaines de la pandémie de Covid-19, sous la dynamique de notre secrétaire générale de La Francophonie, Madame Louise Mouchiki-Wabo, qui a bien anticipé les effets de cette crise sanitaire qui succède à des crises sécuritaires, des crises alimentaires et dont les femmes sont les premières victimes. Nous avons encore peu de recul, mais les besoins sont considérables. Nous avons reçu près de 1400 projets. En 2020, nous avons pu en financer 59 pour près de 3 millions d'euros. Ça concerne des dizaines de milliers de femmes. Et c'est extraordinaire de constater qu'en l'espace de quelques semaines, avec des financements relativement modestes, allant de quelques centaines d'euros à parfois un millier d'euros, on peut avoir des effets et des résultats sur la vie des femmes qui sont considérables. Je pense ici tout de suite à Cécile, cette bénéficiaire d'un projet porté par une association au Nord Cameroun, Jaili Mbok. Cécile, c'est une femme qui est née lourdement handicapée et qui, grâce au fond La Francophonie avec elle, a pu se former au métier de la fabrication de bijoux, a pu lancer son activité, en vendre. Et elle nous disait au combien ce projet lui avait permis d'accroître ses sources de revenus, mais aussi de faire évoluer la compréhension et la vision d'elle-même au sein de sa société. Elle s'est souvent considérée comme un poids au sein de sa communauté. Et cette fois-ci, elle est sollicitée par les femmes de sa communauté pour justement fournir des bijoux, fournir de la formation. Et elle est ravie.
Vous nous donniez la taille des financements. Ça peut commencer à quelques centaines d'euros. Finalement, c'est ça la principale difficulté pour ces femmes, c'est d'avoir accès à de tout petits financements parce qu'elles passent à travers les mailles des filets des gros financements pour des entrepreneuses, on va dire, de taille plus importante, plus aguerrie.
La plus-value du fonds La Francophonie avec elle, c'est effectivement de pouvoir aller directement au plus près des femmes et de mettre à disposition des financements relativement modestes pour justement leur permettre de développer leurs activités. Au sein de la coopération internationale, on a tendance à financer de gros projets qui vont avoir des effets systémiques, c'est pour faire changer les politiques publiques. Et là, on a vraiment cette idée de faire de cet espace linguistique un espace de coopération et de solidarité, de cet espace francophone. Et justement, on a vraiment la capacité aujourd'hui au sein de la francophonie de pouvoir intervenir à des échelons extrêmement localisés pour changer des destins de vie, pour changer des histoires individuelles et collectives.
Oui, alors c'est une autre façon, comme vous le disiez, de vivre la francophonie, pas seulement sur le plan politique ou culturel ou linguistique maintenant.
La volonté aujourd'hui au sein de l'organisation et dans le cadre de la mise en place de ce projet, c'est de faire de cet espace linguistique effectivement un espace de solidarité et un espace de coopération. Il y a cette forte volonté de notre secrétaire général de replacer les citoyens francophones, les populations locales au cœur de notre projet francophone, au cœur de notre action. Et c'est pour ça que ce projet est unique en soi. Il est vraiment cette matérialisation d'une volonté de résultats et d'effets auprès de nos populations.
Alors, vous nous avez dit 3 millions d'euros déjà dépensés hein, par la francophonie sur les premiers mois. Ça va être sur 4 ans. Donc, à terme, ça va être un budget de combien ?
Alors, c'est extrêmement difficile de donner une réponse précise à cette question puisque les budgets sont annualisés et donc ils dépendent des contributions de nos États et de gouvernements. Nous avons aussi à cœur d'associer tous les citoyens francophones à ce fonds. Nous avons mis en place un dispositif de financement participatif sur le site internet de l'Organisation internationale de la francophonie. Et d'ailleurs, j'invite vos auditrices et vos auditeurs, vos voisines et vos voisins à contribuer à ce dispositif. Chaque euro donné, chaque euro alloué sur ce projet sera attribué aux femmes et aux filles sur le terrain.
Qui sont les pays concernés ? Parce que la francophonie, c'est vaste. Les pays prioritaires ?
Alors, sur la première édition du fonds, la francophonie avec elle, très clairement, on a un prisme sur la zone sahélo-saharienne, sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique centrale. Une grande majorité des projets se déroulent en Afrique, mais nous avons aussi une vraie intervention en Haïti. Pour les éditions à venir, et nous venons de lancer la seconde édition de cet appel à projet. Et s'il y a, encore une fois, des auditrices et des auditeurs qui sont membres d'associations, qui s'engagent et qui ont envie de chercher des financements, ils peuvent se rendre sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Et aujourd'hui, nous avons 3 pays prioritaires pour l'édition 2021, le Liban, Haïti et la République centrafricaine.
Alors justement, on va essayer d'évaluer comment fonctionnent ces programmes et ce que ça apporte très concrètement aux femmes. On va donner la parole aux femmes et bien sûr, si vous souhaitez intervenir, poser des questions sur ces financements, sur ces programmes, sur les bénéfices de ces programmes pour les femmes, vous pouvez nous appeler. Les voisines en priorité, mais les voisins aussi, bien sûr, vous avez la parole au 33 7 64 45. 51, 41. On prend un premier témoignage de Bukavu en RDC. Lionel Akonkwa Simba, vous êtes au téléphone avec nous. Bonjour Lionel. Est-ce qu'on est bien en ligne avec Lionel Akonkwa Simba qui est à Bukavu? Oui, bonjour Lionel. Oui. Vous êtes directrice du centre de formation entrepreneuriat et informatique à Bukavu, à l'est de la RDC. Expliquez-nous un petit peu comment vous faites pour toucher les filles les plus éloignées des nouvelles technologies et de la gestion, puisqu'il y a toute une formation en gestion pour ces commerçantes.
Nous visons, notre programme vise à promouvoir l'autonomisation socio-économique des femmes et des filles issues de milieux marginalisés dans la région francophone de Grand Lac, en Afrique subsaharienne. Pour le moment, nous avons 6 centres de formation, dispensent chacun une formation pour une cinquantaine de femmes. Nous avons un centre à Bukavu, à Goma, à Kindu et à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et aussi un centre à Kigali, au Rwanda et au Burundi, à Bujumbura.
Alors, racontez-nous très simplement, Lionel, comment ça se passe, le programme de formation ? Parce que je crois que ça dure 8 mois, ça mobilise seulement 3 heures par jour les femmes, parce que la plupart du temps, elles ont des enfants et donc elles doivent s'occuper de leur maison, de leur foyer. Qu'est-ce que vous leur enseignez ? Qu'est-ce qu'elles apprennent ? Pourquoi faire ?
Elles apprennent la formation en informatique, la base, étant donné que les filles ciblées sont celles qui n'ont pas la possibilité de continuer l'université, celles qui n'ont pas eu, qui vivent sur le seuil de pauvreté.
Certaines sont allées à l'école quand même et d'autres pas du tout.
Oui, certaines sont allées à l'école et d'autres non. Et la plupart vraiment n'ont pas allé à l'école. Donc, nous leur donnons le base en informatique et aussi l'entrepreneuriat pour leur permettre de développer leur propre agir et aussi parvenir peut-être enfin à créer une entreprise durable.
Ça veut dire que, par exemple, on étudie la comptabilité, la gestion, et pas seulement savoir faire un tableau sur un outil informatique.
En informatique, elles étudient les bases informatiques, mm-hmm. ouvrir l'ordinateur, mm-hmm. le Word et Excel. Mm-hmm. Et puis, en entrepreneuriat, elles étudient comment ouvrir les bases entrepreneuriales. Mm-hmm. Donc, comment faire un budget, comment gérer leur trésorerie, comment faire un business plan. Mmh, mmh.
Est-ce que déjà, vous avez vu des résultats? Il y a des femmes qui ont réussi à lancer un petit commerce ou à grandir leur tout petit commerce. Vous avez des exemples en tête, Lionel?
Oui, oui. Certaines chez nous ont mmh. réussi à développer leurs propres entreprises. Juste après chez nous, elles ont fait, l'une est dans la savonnerie, l'autre dans les poulaillers. Donc, juste après chez nous, elles arrivent vraiment à s'adapter dans le monde professionnel, à lancer leurs petites agères. Oui. Peut-être si elles n'arrivent pas à créer leurs entreprises, elles se lancent dans l'informel avec des petits commerces.
Qu'est-ce que vous observez comme principale difficulté pour ces femmes, Lionel ?
Ces femmes, donc, ce centre représente pour ces femmes en situation de vulnérabilité un refuge, un échappatoire. Mmh. Il permet de tisser des liens entre elles ils aident aux femmes de faire partie d'un groupe, mmh. de rompre leur isolement, étant donné que la plupart sont issus des zones marginalisées avec un taux élevé de violence sexuelle et basé sur le genre. Alors, le centre leur offre une opportunité de s'ouvrir au monde et de changer de mentalité et d'être éveillée.
Oui, et ça veut dire aussi que quand on est dans un groupe de femmes, c'est plus simple aussi de partager ses difficultés, de partager ses succès, de partager des conseils aussi.
Oui, 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 oui. C'est comme une famille.
Oui, exactement, c'est comme une autre famille. Merci Lionel Akonkwa Simba. Vous restez en ligne hein, si vous voulez ajouter quelque chose. Florian Coutal, est-ce que vous souhaitez ajouter un commentaire là-dessus ?
C'est, je crois, ce projet, la matérialisation pratique et sur le terrain avec ce témoignage poignant de l'idée et de la philosophie de ce fonds La Francophonie avec elle, c'est de pouvoir accompagner des démarches, des initiatives qui préexistent ou qui sont en train de se structurer à des niveaux locaux avec des solutions locales en mobilisant les communautés sur place et les femmes qui sont les plus en difficulté pour justement leur donner une assise, un appui sur un axe sur lequel s'appuyer pour pouvoir s'autonomiser, se développer, s'émanciper des relations de genre dans lesquelles elles sont parfois fortement prises, mais également de pouvoir s'extraire des conditions de vulnérabilité dans lesquelles elles sont.
Lionel Akonkwa Simba, pour le moment, vous avez touché combien de femmes au niveau de Bukavu ?
Au niveau de Bukavu, nous encadrons 50 femmes.
D'accord. Et ensuite, il faut ajouter toutes les différentes antennes, Goma, Kinshasa, Kigali, etc.
Oui, oui.
Donc, il y a ce projet qui est à la fois donc, avec une antenne au Rwanda et sinon essentiellement congolais. Florian Coutal, la question quand même, c'est qu'on est sur des petites échelles. Et pour cause, hein, on est sur des petits programmes, sur des petits financements. Ça pose la question du passage à l'échelle pour avoir un impact réel sur la sortie de pauvreté sur des populations très importantes de femmes. On a l'impression que là, c'est un peu vider l'océan à la petite cuillère.
Quand une vie est changée, je ne crois pas qu'il y ait de petites échelles. Quand je vous parlais de l'expérience de Cécile, où on le verra un peu plus tard avec des témoignages de Nouadhibou en Mauritanie, il y a des vrais effets individuels sur la vie de ces femmes. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de petites échelles. Effectivement, on n'est pas sur des projets qui ont des dynamiques structurelles, systémiques, de changer les politiques publiques, de changer les approches, mais on est vraiment sur de l'échelle individuelle. Sur la pérennisation et vider l'océan à la petite cuillère, je ne pense pas, parce que j'imagine ce dispositif, et ce dispositif a montré qu'il y a un cercle vertueux qui s'enclenche une fois qu'on apporte ses premiers financements. En fait, la difficulté, c'est que les associations, et notamment ce centre, généralement n'ont pas accès au financement. Il n'existe pas de financement de petite taille ou de taille moyenne pour ces structures. Et donc finalement, il n'y a pas ce cercle vertueux qui s'enclenche grâce à ce premier soutien. Et donc la francophonie, elle se place comme premier acteur de soutien à ces initiatives qui sont sérieuses, bien préparées, bien pensées, inclus dans leur environnement local. Et donc on est vraiment sur une démarche qui est vertueuse, parce que cette autonomisation économique, cette scolarisation des filles que nous cherchons, elle a des vocations, elle a cette possibilité justement d'avoir des incidences de long terme auprès des femmes. Par exemple Cécile, dont je vous parlais tout à l'heure, la fabricante de bijoux, qui nous dit qu'elle allait ouvrir son propre centre de formation pour accompagner d'autres femmes en situation de handicap dans la voie de la professionnalisation.
Florian Coutal, vous restez avec nous. Lionel Akonkwa-Simba, on vous souhaite une bonne journée à Bukavu. Et puis, évidemment, bravo et bonne chance pour la suite de ce programme du Centre de formation entrepreneuriat et informatique. Bonne journée à vous, Lionel.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci
aussi.
À vous. On va donner la parole à d'autres exemples de programmes en Mauritanie, au Sénégal. Ça sera juste après, allez, une pause musicale et francophone. Forcément, Clara Luciani, ma sœur.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi, et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois.
Écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, la francophonie au service de l'entrepreneuriat des femmes. C'est un programme, la francophonie avec elle, qui a démarré au lendemain du début de la pandémie de Covid-19. On en discute avec vous, Florian Coutal, vous êtes responsable de société civile au sein de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et bien sûr, on donne la parole à des femmes, vous nous le disiez, Florian Coutal, il suffit de sommes finalement assez modestes pour donner un vrai coup de pouce à un commerce. Et bien justement, nous sommes en ligne avec une commerçante de poissons, mais pas seulement, des légumes aussi. Awa Sambou est au téléphone avec nous en direct de Nouadhibou, la capitale économique de la Mauritanie. Bonjour Awa Sambou.
Bonjour madame.
Vous êtes propriétaire d'un commerce de poissons et de légumes dans le quartier de Madrid, à Nouadhibou. Et maintenant, vous avez une vraie boutique, c'est bien ça?
Tout à fait, oui.
Qui a ouvert il y a combien de temps?
J'ai ouvert la boutique, ça fait maintenant plus d'une année.
D'accord. Parce que au départ, vous n'aviez pas de boutique. Alors, comment vous faisiez pour vendre du poisson?
Non, j'avais placé une petite table devant ma maison.
Oui.
C'est là-bas que j'avais mis le produit et des légumes.
Mmh. Alors, expliquez-nous tout le chemin. Racontez-nous, Awa, le chemin parcouru entre cette petite table placée devant la porte de votre maison et maintenant cette vraie boutique. Racontez-nous.
Voilà, l'ONG APA, Association de la protection de l'environnement de l'action humanitaire, m'a donné un financement, un matériel de congélation, matériel de poissonnerie. Et j'ai reçu encore un fonds pour que je puisse bien mener mes activités de marketing et d'investissement.
Oui.
Ensuite, j'ai suivi encore une formation en marketing.
Oui.
En gestion financière et en hygiène environnement. Ensuite, le marketing m'a permis à fidéliser mes clientes et comment faire pour attirer la clientèle, comment faire la publicité de mon produit et aussi sur l'hygiène surtout, la propreté et comment faire les emballages. Tout ça, je l'ai appris à travers de la formation que j'ai suivie.
Ouais, ça veut dire que maintenant, votre poisson, vos clients sont certains de l'hygiène. C'est ça, vous n'aviez pas de congélateur avant à Ouassambou?
Non, je n'avais pas de congélateur. Si je me réveille le matin, je pars au port, acheter un peu de poisson et revenir les vendre. Devant la maison.
Donc là, maintenant, le poisson que vous n'avez pas vendu à la fin de la journée, vous pouvez le congeler pour ne pas le perdre.
Si j'achète seulement un petit montant. Comme que je n'avais pas de congélateur, je ne pouvais pas acheter beaucoup.
Ah, après, c'est ça.
Je n'avais pas de moyens et tout ça.
Donc maintenant, vous pouvez acheter beaucoup plus. Vous savez comment négocier aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous gagnez réellement plus d'argent à la fin du mois?
Maintenant, avec le financement que j'ai reçu, j'ai eu à acheter beaucoup de produits. Oui, beaucoup de produits. Ensuite, j'ai commencé à faire beaucoup de bénéfices.
Beaucoup de bénéfices.
Ouais.
Et il y a combien d'enfants à la maison qu'il faut nourrir?
Moi, j'ai 3 enfants, plus mon mari qui n'a travaillé pas et tout ça.
Alors, comment vous vous organisez avec les enfants? Parce que je crois que la boutique, elle est ouverte tous les jours, de 7h du matin jusqu'au soir?
Si, la boutique est ouverte de 7h du matin jusqu'au soir. Ouais.
Et comment vous faites alors?
Je me débrouille pour nourrir mes enfants et tout ça.
Oui.
Avec le petit commerce que j'avais. Maintenant, j'ai commencé à faire beaucoup de bénéfices. Ça va.
Ça va.
Pour l'instant, ça va, oui.
À Ouassambou, vous avez fait les bancs? Vous avez été à l'école?
Si, j'ai fait l'école.
Jusqu'à quel niveau, vous savez?
Je suis partie jusqu'au 4e année collège. J'ai fait le brevet. C'est en ce moment-là que j'ai arrêté l'école. Ensuite, je me suis mariée. Vous savez, avec nos cultures et tout ça. Une femme mariée ne peut pas continuer ses études pour avoir quelque chose dans sa vie, quoi.
Tous ces changements-là que vous nous décrivez, passer d'une table devant la porte de votre maison pour vendre du poisson à une vraie boutique avec des équipements pour maintenir la chaîne du froid, pour une politique marketing, comme vous nous avez dit aussi. Est-ce que ça vous inspire un message à faire passer aux voisines qui nous écoutent, à des femmes qui sont dans la même situation que vous au départ, Awa?
Oui, parce que dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours faire quelque chose comme ça. Peut-être avec les ONG, que parfois ils vont venir vous donner des financements et tout ça. Il faut toujours faire quelque chose, quoi.
Ne pas baisser les bras. Merci à Ouassambou d'avoir été en ligne avec nous de Nouadhibou. Florian Coutal, est-ce que vous souhaitez ajouter des précisions?
Quel merveilleux témoignage de voir cette bénéficiaire du fonds qui a pu, grâce à notre appui, qui a pu développer son entreprise. Et peut-être un message, c'est si vos voisines et vos voisins souhaitent eux aussi contribuer à soutenir des initiatives comme celle de cette dame.
Donc là, on l'entend, une association association locale déjà bien implantée auprès des femmes commerçantes qui sert de relais pour récupérer les financements de l'OIF et ensuite dispenser de la formation, permettre de l'achat de matériel. C'est vraiment, on va dire, une prise en charge assez large finalement.
C'est une prise en charge très large et c'est une organisation qui est montée en puissance ces dernières années grâce aussi au soutien de l'OIF. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'on peut en même temps développer des organisations, des associations locales pour qu'ensuite elles s'intéressent au sein de leur communauté et qu'elles mettent en place un accompagnement très large sur l'ensemble du cycle d'autonomisation économique, de la formation, de l'installation, de la mise à disposition de matériel. Et parfois, ça va même jusqu'à des prêts pour pouvoir acheter plus de marchandises et ensuite accroître ses marges bénéficiaires.
On est en ligne maintenant avec le Sénégal. Louise Dabassar est au téléphone avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. Vous êtes productrice de sel et présidente de la Fédération communale des productrices de sel de Palmarin au Sénégal. Palmarin, c'est dans le Siné-Saloum, une très belle région de mangroves, de rivières. Et puis, bien sûr, vous avez la mer qui vous procure le sel. Oui. Louise, vous avez 3 puits de sel hérités de votre mère. Il faut préciser à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent qu'on hérite des puits de sel. Ça se transmet de mère en fille. Hein. C'est bien ça, Louise ?
Oui.
Et comment les femmes qui récoltent le sel sont aidées par l'ONG Universelle ? Qu'est-ce que vous a procuré cette ONG ?
Pardon ?
Racontez-nous un peu comment vous travaillez avec l'ONG et comment vous avez amélioré vos conditions de travail et de vie, Louise.
Donc, pour le projet,
oui.
APFAS, c'est un projet qui est porté par Universelle.
Oui.
Le projet nous s'appuie techniquement sur la qualité et le stockage de notre sel.
Mmh.
Aussi, c'est un projet... Et la fédération, le projet et la fédération ont créé un cahier des charges pour améliorer la qualité de notre sel, ces différences entre les récoltes.
Oui.
Donc, dans ce cas-là, on a 3 catégories de sel.
Oui.
Oui.
Parce que je crois qu'avant, vous aviez tendance à mélanger les sels. Et en fait, s'il y a du sel qui est de meilleure qualité que d'autres, que vous pouvez vendre beaucoup plus cher et qui peut rapporter un peu plus d'argent, c'est ça, hein?
Oui, il y en a, mais ici à Palmarin,
oui.
Et on ne le recolle pas. C'est ce qu'on dit le fleur de sel.
Oui, la fleur
mais
de sel.
Mais ici, fleur de sel, ici à Palmarin, comme la qualité, les 3 qualités qu'on a, c'est la première qualité de sel, qui signifie la première récolte qui a de sel fin et bien blanc.
Oui.
La deuxième qualité de sel, c'est la deuxième récolte. Qui est de sel de gros grains. Et finalement, la troisième qualité de sel, c'est du sel coloré avec impureté.
Mmh. Alors, oui. Je crois que l'ONG vous a apporté aussi des bâches pour mieux récolter le sel et mieux surtout le conserver. Grâce à la fédération qui a été créée en 2015, ça permet aussi de mieux résister sur le marché pour vous entendre entre vous et pour ne pas vendre le sel à des prix trop bas. Le prix du sel, il est assez bas en ce moment, Louise ?
Oui, le prix de sel est assez bas pour le moment.
Oui. Aux alentours de 600 francs CFA, c'est ça le sac de 25 kilos ?
Oui.
C'est à peu près ça ?
Oui, le sac de 25 kilos actuellement ici à Palmarin, c'est à 300 francs.
Ah oui, c'est encore plus bas.
Oui.
D'accord.
Mais c'est encore plus bas.
Oui, c'est moins d'un demi euro. C'est un métier qui est difficile, Louise ?
Oui, vraiment, c'est un métier qui est très difficile parce que quand même, pour la récolte, on rencontre des difficultés.
Qu'est-ce qui manque finalement pour mieux vivre de votre métier ? Qu'est-ce qui vous manquerait encore, Louise ?
Ce que nous manque, c'est la clientèle.
Mmh.
La clientèle, parce qu'ici, à Palmarin, il y a ce qu'on dit les intermédiaires. Ils prennent des clients quand il y a des clients, les clients viennent voir directement les intermédiaires, quoi.
Et c'est ce qui fait que vous vendez votre sel finalement trop bas à cause des intermédiaires trop nombreux, c'est ça, Louise Dabassard?
Oui, c'est ça. Mmh.
Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous. Est-ce que vous souhaitez faire passer un message aux femmes qui nous écoutent et qui sont commerçantes, qui sont dans l'agriculture?
Pardon?
Est-ce que vous souhaitez faire passer un message aux femmes qui nous écoutent, Louise?
Oui.
Allez-y, on vous écoute, Louise. Louise.
Donc, oui. Allô?
Oui, allez-y, oui. Vous êtes en direct hein, sur RFI.
Oui. Ce que je souhaitais, c'est que la fédération existe toujours et fonctionne de mieux en mieux. Je souhaite avoir beaucoup de clients avec des prix intéressants, mieux valoriser aussi le sel de palmarin.
Eh bien, le message... Oui.
Je souhaite aussi que les générations futures continuent de travailler le sel, mais que ça soit moins pénible pour elles que maintenant.
Oui, et oui, parce que c'est vrai que les enfants qui regardent leur maman travailler aujourd'hui, récolter le sel, eh bien, ils se disent qu'ils ont plutôt envie de faire autre chose. Alors, il faudrait vraiment changer les conditions de travail. Merci beaucoup, Louise Dabassard, d'avoir été en ligne avec nous, productrice de sel et présidente de la Fédération communale des productrices de sel de palmarin au Sénégal. On est vraiment là dans le cas d'un secteur qui est très difficile à l'heure actuelle, Florian Coutard, et qui a absolument besoin d'aide.
Effectivement, et le projet mis en place grâce au fonds La Francophonie avec elle est porté par Universel à Palmarin. Il a vraiment cette ambition de toucher ces 500 femmes productrices de sel. Et peut-être aussi, peut-être, permettez-moi une petite précision, il y a un enjeu aussi sur l'iodation du sel. Et ce projet, il est aussi pour cette ambition-là, c'est d'accompagner ces productrices de sel pour que le sel ait ce taux d'iode suffisant pour permettre sa commercialisation et augmenter aussi son prix et à terme augmenter les bénéfices des femmes, des 500 productrices de sel de palmarin.
Florian Coutal, il nous reste 30 secondes. C'est le moment de passer un appel à projet pour de petites associations qui nous écoutent sur le terrain, sur le continent africain, ça peut être aussi en Haïti, bien sûr, et qui se disent, mais nous aussi, on a besoin de financement, on a des projets, on n'arrive pas à ce qu'ils arrivent jusqu'aux femmes qui en ont besoin.
Les voisines et les voisins, la francophonie avec elle a lancé le 20 mars dernier, jour international de la francophonie, la deuxième édition de l'appel à projet La francophonie avec elle. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, si vous avez des difficultés dans votre quotidien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'OIF, à contacter les représentations nationales de la francophonie sur vos territoires. On vous donnera toutes les informations et on vous accompagnera dans la rédaction de votre projet pour pouvoir obtenir une subvention et comme ces femmes qui ont témoigné aujourd'hui, voir votre sort, votre activité évoluer et se développer.
Et il y en a beaucoup d'autres à découvrir, hein, des femmes bénéficiaires avec un coup de pouce, avec un financement, avec un peu de formation. Elles changent leur vie. Vous pourrez découvrir aussi les photos sur le site, sur notre page. Et le lien est sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr pour arriver sur la page de la francophonie.org et le projet Francophonie avec elle. Merci beaucoup à vous, Florian Coutal. Merci à Lionel Akonkou, à Simba Mbukavu, merci à Ouassambou, à Nouadhibou en Mauritanie, merci à Louise Dabassard à Palmarin au Sénégal. J'en profite pour vous signaler aussi les voisines et les voisins que vendredi 30 avril, on va diffuser un reportage au Togo sur l'entrepreneuriat des femmes, leurs difficultés d'accès à des financements, à des prêts. Notre reporter Raphaël Constant a rencontré des femmes commerçantes ou start-upeuses à Lomé, mais aussi en zone rurale. Et vous allez comprendre pourquoi et comment les femmes sont à ce point discriminées sur le plan économique, malgré leur immense énergie. Mais il y a de beaux succès à découvrir. Ne manquez pas l'émission du 30 avril. Dans quelques instants, interview de cette étudiante soudanaise dont la photo a fait le tour du monde lors de la révolution de 2019, en blanc sur le toit d'une voiture. Ala Salah continue le combat pour les droits des femmes. Ce sera juste après une grande gueule, Camélia Jordana.
Moi, je paye et je dis pardon. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Toi tu dis que je fais rien de bon. Sûrement. Vers toi que t'es tout pourri. Tu sais pas cacher ta connerie. La douceur tu connais pas, on t'avait pas dit. T'as le cœur tout salé, maintenant tu vieillis.
Camélia Jordana, 7 milliards de voisins sur RFI en direct, la suite. En avril 2019, c'est-à-dire il y a deux ans, Ala Salah est devenue le visage de la révolution soudanaise. Une photo d'elle et plusieurs vidéos aussi sont devenues virales. Drapée de blanc, on la voit haranguer la foule depuis le toit d'une voiture en chantant la révolution. Elle a alors 22 ans. Aujourd'hui, encore étudiante en architecture, elle publie Le chant de la révolte, dans lequel elle revient sur le soulèvement populaire contre le régime d'Omar el-Béchir, commencé en décembre 2018, ce soulèvement après le triplement du prix du pain dans le cadre d'une politique de rigueur. Ala Salah répond aux questions de Charlie Dupio avec l'aide de la traductrice Nour El Fadel.
Du jour au lendemain, je suis passée de manifestante parmi des milliers de manifestantes à une personne qui porte leur espoir et leur demande aussi. Et c'est une grande responsabilité sur moi. J'ai été aussi contactée par plusieurs partis politiques soudanais pour délivrer leur vision et leur voix au peuple, mais moi, j'ai refusé. Parce que le plus important pour moi, c'est le peuple, c'est la révolution, la voix qui est vivante en nous. En fait, c'était un moment où j'étais la voix de cette révolution. Je suis fière d'avoir porté cette voix au reste du monde. Quand on regarde la photo en détail, ma photo, moi, je ne vois pas Ala Salah, mais je vois dans cette photo la femme soudanaise elle-même. Je vois le courage, je vois la voix de cette femme soudanaise.
Et justement, quelle a été la part de femmes dans ce mouvement? Quel rôle elles ont joué dans cette révolution qui a commencé donc en décembre 2018 et qui a duré plusieurs mois?
La représentation des femmes était d'environ 60% dans les manifestations. Donc, dans ces manifestations, il y avait des jeunes, il y avait aussi des femmes de différents âges. Même il y avait des femmes plus âgées que nous. On voit que le rôle que la femme soudanaise a joué dans cette révolution a été très important. Et nous, dans notre héritage, depuis 7000 ans, on avait les princesses nubiennes qui se sont battues pour leur peuple, pour leur royaume. Ces femmes, nous, on l'appelle dans notre culture les Kindakat. J'ai chanté pendant les manifestations Kindaka, les femmes nubiennes. Ce mot représente notre héritage de lutte depuis 7000 ans. Pendant la dernière révolution, il y a deux ans, ce n'était pas possible pour nous, en tant que femmes, de vivre sous un tel régime politique répressif. sous aussi une telle situation d'injustice. Bah donc, on ne pouvait pas rien faire, car nous, on a hérité cette histoire de nos grands-mères qui ont fait quelque chose. Évidemment, ma grand-mère a été présente pendant la révolution de 64 et aussi ma mère a fortement participé dans la révolution de 1985. Et donc, en fait, leur rôle était aussi important que le nôtre dans la révolution il y a 2 ans. J'ai vu ma mère et aussi j'ai vu ma grand-mère dans nos maisons. J'ai vu qu'elles ont joué un rôle très, très important dans les deux révolutions et qu'elles ont fait face à la mort. L'un des grands rôles des femmes pendant la révolution soudanaise, c'était l'initiative des robes blanches qui était lancée par l'Université des femmes Ahfad en mars 2019. Cette initiative a été appelée Mars le Blanc et c'était de porter des robes blanches pendant toute sortie pour aller à la fac, pour aller aux manifestations, pour aller rendre visite et vraiment de toutes les femmes ont porté des robes blanches pendant tout mars 2019. C'était pour envoyer un message des femmes solidaires du mouvement contre la violation des droits de l'homme, contre la violence sur les manifestants civils et aussi c'était la solidarité pour les droits de femmes. Et moi-même, depuis le premier jour, j'étais dans les premières femmes qui ont porté cette robe blanche pour aller partout. Tous les jours. Cette robe blanche, même avec sa pureté, elle a incarné la peur de ce régime, qu'il a peur de nous, qu'il a peur de ce message. Le 2 mars, j'ai été interrogée par un policier qui voulait m'arrêter pour un simple acte que j'ai porté cette robe dans les rues soudanaises. Et moi, j'ai répondu, est-ce que vous avez un texte de loi qui nous interdit de porter ce couleur ou ce style spécifique? Et c'est pour ça qu'il a élevé sa voix. Mais moi, j'étais solide et je lui ai répondu que ton discours, ça ne m'intéresse pas et je m'en fiche.
Il y a eu dans le courant de ces manifestations la destitution du président Omar el-Béchir, donc qui a été destitué par l'armée le 11 avril 2019. Mais quel changement il y a eu pour les femmes? On pense notamment à ces lois sur l'ordre public. Par exemple, ils pouvaient arrêter les femmes qui portaient un pantalon, des femmes qui dansaient, des femmes qui aussi vendaient des marchandises dans la rue. Et ces femmes pouvaient être condamnées à des coups de fouet.
Oui, en fait, la plus grande victoire de notre révolution, c'était l'abolition de ces lois sur l'ordre public. On a obtenu une partie de nos droits, mais la route est longue pour conquérir tous nos droits au Soudan.
Ala Salah publie son histoire traduite en français, Le Chant de la Révolte aux éditions Favre. En parallèle de ses études pour devenir architecte, Ala Salah prévoit de lancer une ONG pour soutenir le droit à l'éducation en priorité pour les femmes, les filles. Et il faut dire que pour bon nombre de Soudanais, les réformes sont freinées par les militaires, membres du gouvernement de transition. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Merci à Charlie Dupiot pour l'interview d'Ala Salah. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast. Et puis, bien sûr, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Demain, on se retrouve pour parler éducation. À demain, les voisins et les voisines. Dans quelques secondes, ce sera le journal.